sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, comment ça va? 6 mai. Ah, ben d'abord le 6 mai, j'aimerais dire souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Hélène Desjardins. Hein? Voilà, c'est fait. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie aujourd'hui Guillaume Parent. Guillaume Parent qui est impliqué de toutes sortes de manières dans le domaine financier, mais évidemment avec une perspective de personnes en situation de handicap. Il y a eu la prestation pour les personnes handicapées annoncée dans le dernier budget fédéral. On en parle avec Guillaume Parent. Nous aurons le plaisir d'avoir en notre compagnie Diego Menas Martinez, directeur général division du Québec de Sclérose en Plaques Canada. Le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. On en parle avec M. Martinez. Élisane Pellerin va faire la revue de presse avec nous à 12h45. Et pour commencer, notre chroniqueur scientifique, Philippe Ducharme. Tout ça à Sans détour! Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Et encore des... Je pense qu'on devrait appeler ta chronique vulgarisation ou plutôt scientifique, on devrait plutôt appeler ça science-fiction, mais science-réalité.
Ah oui, ben oui, absolument.
Et encore des trucs... Enfin, moi je suis très fier parce que beaucoup des sujets de recherche que tu nous amènes, en fait, ces recherches-là émanent du Québec.
Oui.
On voit que les chercheurs ici font des avancées importantes qui peuvent avoir une portée mondiale.
Tout à fait. On n'a rien envié des autres. Non. On fait de la très, très belle recherche au Québec.
Exactement. On parle de hyperscanning cérébral.
Oui. Une affaire qui sortir de la science-fiction.
Oui.
Mais on va tout expliquer ça dans quelques instants. Mais avant d'y arriver, on est dans un contexte où on va parler des gens atteints du trouble du spectre de l'autisme.
D'accord.
Qui est une... On va résumer ça en disant c'est une différence du développement du cerveau chez ces personnes-là et qui a pour conséquence, on pourrait dire comme ça aussi, que ces gens-là vont percevoir le monde un peu différemment des autres.
Hein?
Ces gens-là vont penser et interagir aussi d'une manière... disons, unique par rapport à des personnes qu'on va considérer comme étant neurotypiques.
Voilà. D'accord. Et ça, c'est dans les interactions sociales, c'est là que ça fait la plus grande différence souvent.
C'est ça. T'sais, en fait, il y a des combinaisons de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, comme les interactions, bien entendu. Et d'ailleurs, des chercheurs se demandent, justement, sur le plan physiologique, le plan comportemental et cérébral, comment ça se passe au niveau des interactions sociales chez les personnes autistes? Et surtout, comment ça, c'est différent par rapport à des personnes neurotypiques?
D'accord. De voir qu'est-ce qui, dans le cerveau, quel neurone s'allume, si je peux dire, quel chemin quel parcours neuronal on retrouve par rapport à une situation par rapport à une autre.
Voilà. Et puis là, il y a une équipe de recherche pilotée par un chercheur de l'Université de Montréal, le docteur Guillaume Dumas, qui travaille également au CHU Saint-Justine. Et c'est une recherche qui est faite par beaucoup d'autres chercheurs. Là. C'est une grosse équipe de chercheurs de la Faculté de médecine et du département de psychologie à l'Université de Montréal. Donc, c'est important de le souligner. Là. C'est un gros travail colossal. Et ce projet-là, d'abord, il se nomme SCALE. C'est un acronyme pour Social Cognition in Autism Across Levels.
Oui, ça permet de faire des communications scientifiques en anglais et malheureusement, c'est la langue privilégiée pour ce genre de choses.
Mais le projet, dans le fond, c'est de caractériser, d'essayer de mieux comprendre comment la dynamique des interactions sociales se fait chez les jeunes autistes avec leurs parents. Et pour ça, on arrive dans le côté un peu science-fiction pour certains. Là, ces chercheurs-là vont utiliser une technique qu'on appelle l'hyperscanning cérébral.
D'accord.
Donc, c'est une technique, finalement, qui permet d'enregistrer en temps réel l'activité électrique des neurones dans le cerveau, Lorsque des personnes sont en interaction l'une avec l'autre.
De plusieurs personnes en même temps. Donc, en fait, c'est comme si on voyait les cerveaux communiquer entre eux, voir comment ça réagit. Wow.
Exactement. On fait ça avec des électrodes là, qu'on dépose à la surface de la tête là, avec une espèce de petit casque de bain. Là. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des études antérieures qui ont montré qu'avec cette technique-là, on est capable d'observer ce qu'on appelle des phénomènes de synchronisation neuronale interpersonnelle. Ça fait qu'autrement dit, à des moments, il y a des gens qui vont avoir des patterns d'activité électrique là, neuronale dans le cerveau qui vont être très similaires. Oh. Et tu sais, François, quand on dit être sur la même longueur d'onde... Là,
c'est vrai!
Ben, je pense que ça résume très bien le but de cette technique-là. Là. On est vraiment rendu là. On regarde à quel point les gens sont sur la même longueur d'onde. Voilà.
Oh ben, bientôt, on va communiquer par la pensée, mais ça, on le fait déjà, mais il faut pas en parler.
Ouais. Oui. Fait que, dans le protocole, là, on va regarder, dans le fond, 40 jeunes enfants âgés de... Ben, en fait, 80 enfants âgés de 6 à 16 ans. Il y en a 40 qui ont un diagnostic d'autisme. Les 40 autres sont considérés neurotypiques. Et on va observer pour chacun de ces enfants-là ce qui se passe au niveau des interactions avec un de leurs parents, par la technique que je viens de décrire. Tout ça, ça génère énormément de données, là, puis ça prend de l'intelligence artificielle pour les analyser. Là. C'est beaucoup trop volumineux. Mais ce qu'on va espérer en faisant les analyses avec ces données-là, ben, c'est qu'on soit capable de voir peut-être des différences entre les groupes des enfants autistes versus les enfants neurotypiques. Puis pas de problème aussi de mieux comprendre en quoi l'interaction du parent vient agir au niveau en comparaison avec les enfants autistes versus les enfants non autistes, comment cette interaction-là se manifeste au niveau cérébral, là, activité électrique.
Oui, parce qu'on peut voir, oui, on peut imaginer toutes les pistes de recherche subséquentes avec cette immense banque de données.
Exact.
Et de voir les interactions de la bonne, d'une façon qui favorise le développement de l'enfant.
Assurément.
Ou qui pourra être le freiner. C'est formidable.
Puis adapter les protocoles peut-être d'intervention personnalisée auprès de ces personnes-là, raffiner les outils de diagnostic pour l'autisme aussi. C'est ça un peu l'objectif ultime d'une telle approche.
Alors, c'est à suivre. Bravo.
Oui, tout à fait.
L'hyperscanning. Mais il se passe d'autres choses aussi à Montréal encore.
Oui, tout à fait. Et là, je vous amène dans un autre sujet. On va parler ici de démence frontotemporale. C'est une forme de démence qui apparaît relativement tôt. Là. On parle de 40 à 65 ans, l'âge moyen, où on voit apparaître les premiers symptômes de cette maladie, qui d'ailleurs correspond à 20 % des démences. Là. Quand on fragmente ça, là, ça représente ça. Une maladie qui va se traduire par des pertes de mémoire, des changements de comportement, difficulté à parler et également à se mouvoir.
Alors, ça ressemble un peu à de l'Alzheimer, mais ce n'est pas de l'Alzheimer.
C'est exactement. Puis ce qui est très triste, c'est qu'on va perdre, l'autonomie va se perdre de manière totale au bout de 10 à 15 ans. Donc, ça a vraiment une conséquence très dommage.
C'est dur. Si je comprends, c'est la maladie dont Bruce Willis.
L'acteur
de films d'action bien connu, là, il en est malheureusement atteint. Voilà.
Exactement, voilà. Puis à ce jour, les options thérapeutiques sont très limitées. Là. On ne peut pas guérir la maladie, malheureusement. Mais il y a des chercheurs à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, donc on est ici au Québec, bien sûr, le neuropsychiatre Simon Ducharme, qui soit dit en passant...
Ah, c'est pas ton cousin?
Non, c'est pas mon cousin. On s'est pas encore croisés dans les parties de famille.
Okay.
Fait qu'on n'est pas cousins, mais on partage le même nom que famille. Mais aussi un autre chercheur, Denis Sira. Et ces deux chercheurs-là ont mis au point une thérapie génétique qui va être qui a été utilisée pour la première fois la semaine passée, là, le 1er mai dernier. Première fois au Canada au niveau d'études de la démence, puis la première fois en neurologie adulte au Québec. Donc, c'est vraiment une première. Mais il faut le mentionner, c'est une thérapie qui s'adresse spécifiquement à des patients qui ont cette démence-là, mais qui ont un gène défectueux. Et là, on va mettre le doigt dessus. Là. C'est un gène qu'on l'appelle GRN.
GRN. Ça, c'est le gène défectueux qui cause à peu près 20 % des démences frontotemporales. voilà, elle-même, exactement. Qui est un groupe de l'ensemble des démences qui surviennent.
Voilà.
Alors, 20% de 20%, mais ça fait à peu près 4 à 5% des cas totaux de démence. Mais
voilà,
ça semble
exact.
Petit, mais c'est pas rien, cette découverte de mutation de gène.
Non, pas du tout. GRN, c'est un gène qui produit une protéine qu'on appelle la progranuline. Puis ça, c'est une protéine qui est vraiment importante pour le bon fonctionnement du cerveau. Et si on n'en produit pas assez, ben ça finit par endommager les neurones. Et ça mène inévitablement au développement de cette maladie-là. Donc, ça montre quand même le lien important qu'il peut y avoir.
Le traitement consiste à injecter à la base du crâne du patient directement dans le liquide céphalo-rachidien. Là, ça, c'est ce qui... c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau, si je peux
tout
dire.
Tout à fait, exactement, c'est ça.
Les particules qui contiennent le gène défectueux.
Voilà, exactement. En fait, qui contient le gène en bon état, bien entendu.
Ah, d'accord, oui. Contient le gène défectueux, ce ne serait pas très fort, parce que
ça
serait jeter de l'huile sur le feu.
Oui,
voilà, c'est pour ça que je ne suis pas chercheur.
Bon. Puis, ce qu'on espère en injectant ce gène-là, c'est que les cellules cérébrales puissent se mettre à produire un peu plus de la protéine en question.
Évidemment.
C'est une étude qui est à l'étape 1, la phase 1 qu'on appelle. Ça veut dire qu'on veut vérifier que c'est un traitement qui est sécuritaire, qui n'est pas dommageable, qui est inoffensif, autrement dit. Mais on ne se le cachera pas, là. On espère avoir déjà des résultats intéressants, des bénéfices pour observer, par exemple,
On a passé l'étape des souris, là. On est sur des êtres humains la semaine dernière.
Exactement. Puis on espère ici observer donc aussi une augmentation de production de cette protéine-là qui est en ce moment, qui manque chez ces personnes-là. Puis si ça marche, bien, on a peut-être laissé un bon traitement, un traitement qui est très prometteur pour retarder peut-être l'apparition des symptômes de cette maladie-là ou les atténuer. Enfin,
du moins, il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir, tout à fait, c'est ça. Une porte qui s'ouvre ici pour offrir de l'espoir aux gens qui sont atteints, malheureusement, de cette forme de démence. Voilà.
Là, on va parler d'un coin de l'Europe dont on parle pas si souvent dans les nouvelles scientifiques, parce que ces gens sont pas de bons chercheurs, c'est simplement que c'est un petit pays. C'est en Lituanie.
Voilà. Tout à fait. En Lituanie, il y a des gens, en fait, une compagnie qui a mis au point un fauteuil roulant qu'on dit ergonomique nouveau genre. C'est-à-dire que, premièrement, le fauteuil roulant, on l'appelle le KIMHI, le K-I-M-I. Et si vous cherchez sur Internet, la compagnie qui le fabrique, Cronus Robotics, vous allez rapidement tomber là-dessus. Les gens le décrivent comme un robot de mobilité personnelle auto-équilibré. J'insiste sur ces deux derniers mots-là parce que c'est un fauteuil roulant qui tient en équilibre lui-même sur deux roues.
Finalement, c'est pas autant un fauteuil roulant plutôt que comme une station debout roulante.
Exactement. Si les gens ont en tête le Segway, le gyropode du fabricant Segway, si on va dans le Vieux-Port de Montréal, on en voit parfois là, des gens qui se promènent là-dessus. C'est un peu le même genre. Donc, c'est un fauteuil roulant composé de deux roues. La personne peut être assise... mais peut être en position plus surélevée, de sorte qu'elle se retrouve à la même hauteur que d'autres bipèdes.
Ah oui, ça c'est important pour certains aménagements publics, ainsi de suite.
Puis, plutôt que d'avoir toujours le cou cassé puis à regarder de haut les gens, on peut être à la même hauteur. Ce fauteuil-là tient en équilibre par effet gyroscopique. Vous savez, quand on pousse une toupie qui tourne sur elle-même, là, qui ne tombe pas, c'est l'effet gyroscopique, justement, qui permet à la toupie de demeurer en équilibre. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve à l'intérieur du dispositif de la chaise roulante. Ce sont des petits capteurs qui permettent de maintenir en équilibre la chaise roulante. Et l'utilisateur peut se déplacer par des mouvements du haut du corps, donc en avançant le tronc, en reculant.
En supposant que la personne est donc est en fauteuil ayant perdu l'usage de ses membres inférieurs.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Exactement.
Parce que, à prime abord, c'est sûr qu'il y a une certaine stabilité quand on a un fauteuil qui a quatre roues, là, qui a quatre angles. On peut penser qu'avec juste deux, qu'est-ce qui peut advenir? Mais avec le gyroscope ou les gyroscopes, ça tient la route. Puis ça peut même aller assez vite, là.
Oui, absolument. Puis on peut varier de la position assise à debout. Ça a des bénéfices au niveau ergonomique. Donc, voilà quelque chose d'intéressant qui n'est pas encore, je crois, disponible, mais qui devrait venir sous peu. Là. Les prix seront affichés prochainement.
C'est équipé d'amortisseurs. Ça peut monter une pente de 20 degrés. Oui, ça se plie, puis ça peut même se ranger dans le coffre d'une auto. Parce que tout le bazar pèse à peu près 38 kilos. Ça, c'est un petit peu plus de 80 livres. Et c'est alimenté par une batterie au lithium, lui procurant une autonomie de 30 km. Et on peut aller jusqu'à 20 km/h avec ça. Là, alors, peut-être sur une piste cyclable près de chez vous. Bientôt.
Surveillez ça. On va voir ça passer peut-être dans quelques années. Ça se peut très bien.
Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Encore une fois, des bonnes nouvelles, des rayons d'espoir. Ouais. Puis on se reparle le mois prochain.
Assurément, assurément. Bonne journée à toi.
Merci. Ah, Vince Guaraldi, qui est en passe de devenir l'auteur-compositeur, le jazzman officiel de Sans détour, c'était Treat Street. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Guillaume Parent. Bonjour Guillaume, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci de l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir. Guillaume Parent, vous êtes un conseiller financier, planificateur en sécurité financière chez FinHandicap, mais vous êtes aussi très impliqué sur la mouvance des réclamations à juste titre des personnes en situation de handicap, surtout dans un angle, dans une perspective financière. Entre autres, vous avez beaucoup aidé au travers de différents organismes comme Handicap sans pauvreté à pousser le gouvernement fédéral à agir. Et au dernier budget, il y a eu finalement l'aboutissement, si je peux dire, de beaucoup de ces efforts. Et on va en parler ensemble aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui arrive avec la prestation pour les personnes handicapées? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est assez? C'est pas assez? Est-ce que le gouvernement nous a écoutés? Pas assez?
Donc, rappelons un peu l'historique. Dans le fond, je pense que toute la population s'entend sur le fait qu'être en situation de handicap, pièce, puis c'est un défi au niveau financier. Donc, le fédéral, le gouvernement libéral avait l'intention depuis 2020 de créer une prestation pour mettre un peu plus d'argent dans les poches des adultes handicapés de 18 à 65 ans. Donc, il y a eu une loi votée en juin 2023 qui confirmait cette intention-là. Et voilà que dans le budget fédéral, on annonce un investissement de peu plus de 6 milliards sur les 5 prochaines années pour instaurer une prestation qui va être disponible en premier lieu pour tous ceux et celles qui ont réclamé, qui réclament, qui réduisent l'impôt pour personnes handicapées. Et cette prestation-là, ben, ça va dépendre du revenu de la personne, mais ça va être un maximum de 2 400 $ par année indexé à l'inflation.
D'accord. Et là, je pense que vous avez dit quelque chose qui est vraiment important, surtout au Québec où il y a des lacunes à ce sujet-là. Il s'agit de réclamer le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et au Québec, oui, on est souvent en retard là-dessus.
Imaginez, François, au Québec, on réclame 2 fois moins ce crédit-là que dans la région province. Donc, c'est une lacune importante. Puisque désormais, ce crédit-là, c'est pas juste pour sauver de l'impôt, ben c'est la porte d'entrée vers d'autres prestations de l'argent. Et vous payez ou non de l'impôt payé. Donc, le mot d'ordre pour tous vos auditeurs qui hésitent ou qui ne connaissent pas cette crise-là, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut entamer la démarche.
Oui, exact. Mais déjà, on en reparlera une autre fois parce qu'on en a déjà parlé, que ça ouvre la porte aussi au régime enregistré d'épargne invalidité. Mais oui. Et ça aussi, c'est juste en soi, c'est une excellente raison de réclamer le crédit. Mais donc, à la suite, d'abord, moi, ce que je remarque, comme vous l'avez vous-même souligné dans les médias, le gouvernement a quand même agi rapidement dans ce dossier-là, entre l'intention émise à l'origine par la ministre Qualtrough et jusqu'à maintenant le budget. Ça s'est fait assez vite en termes de, je dirais, tout est relatif, là, mais pour le gouvernement fédéral, ça a été fait vite.
C'est ça, 3 ans là, de l'intention officielle pour le gouvernement fédéral dans une mesure aussi complexe, c'est quand même assez vite. Je pense que la communauté tient à le souligner puis doit voir que cette prestation-là, là, de tous les nouveaux argents de ce budget, c'est quand même 10% de tout nouvel argent qui est promis dans le budget. Donc, c'est majeur. Bon, est-ce qu'il pouvait en avoir plus? Je pense que oui.
oui, mais... Ouais, mais
c'est un départ. Si on veut aller vite, je pense que la demande des personnes handicapées, c'était, écoutez, le coût de la vie monte très vite, oui. Donc... Grouillez-vous.
Okay. Ouais.
Moi, je le vois comme une première étape.
Ben, c'est comme un verre à moitié plein et plutôt qu'un verre qui est à moitié vide. Hein? Faut voir ça de cet angle-là. Parce que je sais que le milieu des personnes en situation de handicap, dans un sens large au Canada, il y a même M. Price, je pense, qui était au comité consultatif au fédéral, qui est parti en claquant la porte parce qu'il disait que c'était pas suffisamment, puis ainsi
Exactement.
De suite. Mais quand même, c'est, disons-le, pas dans la bonne direction. Ça, c'est quand même important de souligner. L'aspect qui va être déterminant là-dedans, je pense aussi, c'est de savoir comment les provinces vont réagir.
Exactement. Donc, évidemment, le système de solidarité sociale à l'échelle du pays, c'est quand même courte pointe. Donc, chaque province et territoire a ses propres règles. Donc, je dirais que le début des faits qui arrivent, c'est juillet 2025.
D'accord.
Donc, le fédéral, ça leur donne 14 mois pour s'entendre avec les provinces. Et la demande de la communauté, c'est qu'on ne veut pas que les provinces, Québec, en profitent pour diminuer leur offre de services et la prestation.
Oui, parce que c'est assez inégal, je pense, d'une province à l'autre. On avait à notre antenne ici, il y a quelques semaines, Tommy Théberge, on parlait du projet de loi du cadre au sujet de la santé visuelle. Et on voyait que dans certaines provinces, il y a des aides visuelles qui ne sont pas remboursées, alors que dans d'autres provinces, elles le sont. Et dans tous les domaines de support aux personnes en situation de handicap, là, c'est très inégal. Et on pourrait craindre qu'une province pourrait profiter de l'occasion pour se désengager, là, ce qui serait évidemment...
Oui, mais écoutez, ça, selon moi, là, c'est important, mais... Le fait que la moitié des Québécois, on réclame la moitié moins des Québécois. Pour moi, c'est le plus gros obstacle. Donc, d'ailleurs, pour rappeler que le fédéral prévoit rémunérer les professionnels de la santé pour remplir.
Oui, ça, oui, exact. Oui, ça, c'est tout à fait juste, M. Parent, parce que le formulaire T2201, souvent, c'était un obstacle. Mon médecin traitant ou la personne qui doit remplir la partie médicale va me réclamer 175 ou 250 $ pour se faire. Ça décourageait les gens de procéder. Mais si là, on a accès à une prestation dès l'an prochain qui peut aller jusqu'à 2400 $ et que le gouvernement paye les honoraires professionnels pour aider à pousser le formulaire dans le système, ben là, il n'y a plus de raison que le Québec soit à la traîne.
Dès qu'une personne considère que son état de santé nuit à ses activités quotidiennes, il devrait télécharger le
formulaire. Exact. Tout à fait.
Je rappelle que l'ARC, Revenu Canada, est en train d'élargir ces critères.
Justement, pour que ce traitement... Merci beaucoup, M. Parent. C'est tout le temps dont on dispose. On va suivre ça de près. On espère de voir la participation des Québécois, Québécoises augmenter... au cours des prochaines années.
Merci beaucoup, puis n'importe quand je vais être là pour
l'en faire.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Diego Mena-Martinez. Bonjour, M. Martinez.
Bonjour.
Vous êtes directeur général division du Québec Sclérose en Plaques Canada et le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. C'est un mois important. Il va y avoir toutes sortes d'activités autour du sujet.
Effectivement, le mois de mai, c'est vraiment le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques. Une maladie, en fait, qui touche beaucoup de monde. En fait, le Canada est le pays qui a le plus haut taux de sclérose en plaques dans le monde.
Oh.
Environ 90 000 personnes au Canada et au Québec, on parle de 20 000 personnes qui sont touchées par la maladie. Donc, c'est un mois effectivement important.
Est-ce qu'il y a une raison pourquoi le Canada est plus... est plus durement touché par la sclérose en plaques?
Il y a des raisons qui sont environnementales. Il y a d'un côté aussi qui est génétique. En ce moment, on sait que la maladie, environ 30 à 40 % de la maladie est due à des effets plus génétiques. Puis D'accord. Le reste, c'est environ... En fait, le restant, c'est vraiment en raison de l'environnement où on se trouve. Le Canada est un pays nordique et on sait que la sclérose en plaques agit aussi à cause de la vitamine D. Donc, la carence de la vitamine D est un des facteurs. Ce n'est pas le seul, mais un des facteurs.
Et l'ensoleillement y est pour quelque chose, oui.
Et l'ensoleillement étant pour quelque chose. Donc, c'est pour ça que, bon, le Canada étant un pays nordique, on sait que les autres pays nordiques européens ont aussi un taux, des taux élevés de sclérose en plaques. Mais nous, en proportion, on a le plus haut taux de sclérose en plaques de le monde. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont touchées.
Oui, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui vit avec la sclérose en plaques. Et on voit comment ça peut être dévastateur. Quand quelqu'un a un diagnostic, comment les premiers symptômes apparaissent dans la vie de quelqu'un? Comment ça se manifeste?
Alors, les premiers symptômes, des fois, apparaissent tôt, puis c'est des symptômes qui sont, des fois, en fait, des engourdissements dans les jambes, dans les bras. Des fois, il y a des personnes qui ont, en fait, des problèmes de vue. Il y a certaines mobilités, au niveau de la mobilité, de pouvoir bouger. Donc, et parfois, ces symptômes sont des petits signes qu'on dit, bah, ça va peut-être disparaître, ça passe, ça vient, ça passe. Et une fois qu'on voit que ça devient un petit peu chronique, c'est là, en fait, que les médecins de famille font des examens un petit peu plus poussés, surtout avec l'imagerie. D'accord. Et on se rend compte, en fait, que c'est vraiment un problème de plaque. Donc, c'est pour ça qu'on pense que le diagnostic est important, il faut le diagnostiquer tôt. Et parfois, du fait que ces symptômes ne sont pas nécessairement toujours récurrents, ils viennent. Des fois, on laisse passer le temps et malheureusement, en fait, on diagnostique un petit peu plus tard.
D'accord,
mais
oui.
C'est important de pouvoir le diagnostiquer tôt et de pouvoir, en fait, consulter le médecin dès qu'on a, en fait, des idées qu'on pourrait avoir.
Peut-être qu'on ne met pas le doigt sur sclérose en plaques la première journée, mais on doit percevoir qu'on a peut-être un problème d'ordre neurologique parce que, comme vous dites, les symptômes sont épisodiques. Alors, on a l'impression que c'est la fatigue, c'est l'âge, c'est autre chose. Une fois que le diagnostic est établi, ça doit être un choc pour les familles. Et là, je pense que Sclérose en Plaques Canada offre du soutien.
Absolument. Je pense que, bon, avoir un diagnostic aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'avoir un diagnostic il y a 20 ans. Il faut se dire qu'il y a eu une grande évolution des traitements dans les sclérose en plaques. En 1993, il y avait juste un médicament. Aujourd'hui, on a une vingtaine de médicaments qui sont approuvés par Santé Canada, donc qui permettent justement aux gens de pouvoir mieux contrôler leurs symptômes. Donc, lorsqu'une personne a un diagnostic de sclérose en plaques, bien évidemment, c'est toujours un choc, en fait, d'avoir un diagnostic d'une maladie. On est sclérose en plaques, c'en est une parce que c'est une maladie aussi qui est imprévisible. Donc, on ne sait pas comment la maladie va pouvoir évoluer dans le temps. Donc, cette sorte d'épée de Damoclès qu'on a sur la tête de dire, bon, ben, aujourd'hui, je suis bien, mais peut-être demain, je vais avoir une poussée, un symptôme qui va faire en sorte que ma maladie va se dégénérer. C'est ça qui cause, en règle générale, des inquiétudes et puis des interrogations pour les personnes qui sont atteintes de la maladie. Nous, on est là, bien évidemment, à SP Canada, la division du Québec et tous les différents bureaux qu'on a, en fait, dans les régions ici au Québec. Nous sommes là justement pour donner de l'information et du soutien aux personnes qui sont diagnostiquées. Et puis les personnes nous contactent, en fait, et puis on peut donner l'information. C'est sûr que la maladie est une maladie, comme je dis, qui est imprévisible.
Oui.
Et donc c'est ce côté-là qui pose surtout, qui donne du stress,
oui,
aux personnes, parce que bien évidemment, on ne sait pas comment on va évoluer dans le temps.
Et peut-être aussi, on connaît quelqu'un qui en a souffert il y a plusieurs années. Et on n'est pas conscient, comme vous le souligniez tout à l'heure, des avancées, ou de la pharmacologie au moins, pour pallier en partie aux symptômes.
Exactement. En fait, c'est sûr qu'avant, quand on avait un diagnostic de sclérose en plaques, on avait l'idée de tout de suite être en fait dans une chaise roulante, en fait, de perdre vraiment une mobilité. Maintenant, grâce au traitement, surtout pour la forme qui est beaucoup plus cyclique, qui est la forme, en fait, qui touche la grande majorité de personnes, ben, les médicaments font en sorte qu'on peut mieux contrôler les symptômes. Cela étant dit, il y a quand même des formes qui sont un petit peu plus agressives, dans lesquelles l'évolution de la maladie est forte, et donc ça progresse avec des mobilités, en fait, des incapacités de mobilité qui vont venir, en fait, dans le temps, et souvent qui viennent vite. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est de pouvoir bien d'avoir un diagnostic qui est tôt, de pouvoir avoir un bon suivi en fait avec les avec les différentes cliniques SP qui existent en fait dans les régions et au Québec, et de telle façon à pouvoir suivre l'évolution de la maladie. Il faut se dire aussi en fait que la maladie a beaucoup évolué et actuellement, oui. On sait depuis les deux dernières années qu'il y a quand même des éléments qui sont aussi liés à l'environnement, surtout oui. Un virus, le virus de la mononucléose, qui est vraiment un des facteurs qui présente une corrélation importante envers la maladie. Oui. Oui, effectivement. En fait, on sait maintenant que toutes les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques sont porteuses en fait du virus de la mononucléose. Et des personnes qui ont le virus de la mononucléose, environ 34% de ces personnes vont développer la sclérose en plaques. Donc de là, on comprend maintenant que c'est important et nous, en fait, au sein de notre organisation, on essaye de, justement de faire des revendications, d'un petit peu passer le message pour pouvoir avoir un virus pour le virus de la mononucléose, parce que cela va permettre justement de diminuer le nombre de personnes qui pourraient développer potentiellement les scléroses en plaques si on a été atteint en fait de ce virus en fait.
Est-ce que ce virus-là peut être traité par une forme de vaccin? Est-ce qu'il est possible de faire donc non seulement une prévention, mais un traitement en amont?
Oui, effectivement. Effectivement, il y a déjà en fait certaines pharmaceutiques qui se penchent sur la question, mais vraiment, c'est ces deux dernières années qu'il y a eu une grande évolution là-dessus. Bien évidemment, ça donne un certain espoir parce qu'on sait que si on peut prévenir à travers un vaccin, on pourrait quand même diminuer en fait l'incidence de la sclérose en plaques dans la population, ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait. Alors, mais c'est le mois de la sensibilisation. Et dans ce sens-là, il va y avoir des activités, je pense, partout au Canada. Il y a eu, pour commencer, je pense, vous avez fait une marche sur le Parlement.
Oui, on est allé à Ottawa, bien évidemment que pour nous, c'est tellement important. Donc, c'est sûr que pour nous, le nerf de la guerre, c'est toujours la recherche. Donc, on demande justement d'avoir un financement en fait pour la recherche de sclérose en plaques qui va permettre justement de pouvoir trouver un jour, on espère bien, une solution pour la maladie. Mais aussi, on fait d'autres revendications au niveau notamment des prestations pour les personnes qui sont en situation d'handicap, de telle façon que les handicaps qui sont épisodiques soient pris en compte aussi dans les prestations canadiennes. Parce que les scléroses en plaques, comme j'expliquais avant, c'est vraiment des cycliques, donc c'est-à-dire qu'il y a des poussées, des rémissions. Donc, ces handicaps peuvent être épisodiques, ce n'est pas tout le temps. Donc, c'est pour nous important de pouvoir inclure ces critères en fait, au niveau des prestations canadiennes. Et puis, bien évidemment, au niveau des prestations de l'assurance emploi, ce que nous, on demande, c'est vraiment de diminuer de 600 à 400 heures, en fait, le nombre d'heures pour pouvoir accéder à la prestation d'assurance emploi. Plusieurs personnes qui ont les sclérose en plaques se retrouvent dans une situation dans laquelle ils doivent faire santé, c'est sûr que 600 heures, c'est un petit peu plus important. De façon à diminuer le nombre d'heures, en fait, les personnes pourraient accéder, insérer aussi à la prestation d'assurance emploi. Et notamment pour les personnes qui sont les plus vulnérables, parce que des fois, en fait, il y a des personnes qui se retrouvent en fait, dans une situation dans laquelle soit ils ont des handicaps épisodiques, malheureusement, ils ne pourraient pas en fait, actuellement accéder à cette fameuse prestation canadienne. Mais en même temps, s'ils n'accumulent pas les 600 heures, ils ne pourraient pas non plus assurer.
En plus, oui, d'accord.
Donc, on se retrouve sans un filet social.
Ils ne sont, pas suffisamment handicapés d'un point de vue, mais ils le sont suffisamment pour ne pas avoir le droit à une autre forme de soutien. Ils sont un peu comme entre deux chaises. Il y a d'autres formes, il y a d'autres types de maladies qui peuvent affecter des Canadiens qui ont un peu le même pattern, mais la sclérose en plaques est vraiment un cas d'espèce. Là. C'est vraiment une des caractéristiques de la sclérose en plaques, justement, c'est son caractère épisodique.
Exactement, exactement. Donc, 80% de personnes, en fait, c'est pas plus là, en fait, disposent du type de sclérose en plaques cyclique qui est poussée rémission, dans laquelle il y a vraiment des situations d'handicap épisodique. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de passer ce message. Et bien évidemment, c'est aussi le mois de la sensibilisation. Ici au Québec, C'est sûr qu'il y a d'autres enjeux comme l'accès au traitement, l'accès aux médicaments qui est important pour nous. Vous savez, en fait, pour pouvoir contrôler la maladie, il faut accéder aux médicaments. Il faut toujours avoir ce remboursement sur les médicaments de la part de la RAMQ.
Oui.
Donc, on essaie toujours de mobiliser de ce côté-là. Et bien évidemment, les soins à domicile. Plusieurs personnes qui ont la sclérose en plaques et qui sont dans des situations dans lesquelles ils ont certaines situations d'handicap ou se retrouvent vraiment dans une situation dans laquelle ils doivent avoir une certaine aide.
Un support, un soutien.
Ils voudraient retourner, en fait, avoir de l'aide plus à soins à domicile. Donc, ça, c'est un autre critère qui est important.
Et tout ça va un peu culminer, mais d'une façon peut-être plus ludique, le 26 mai. Vous allez avoir des marches un peu partout au Québec pour rassembler le public autour de la cause.
Exactement. Le 26 mai, c'est vraiment la marche de SP, nos marches qui sont un petit peu partout dans la province. On a plus d'une quinzaine de marches un peu partout dans les régions. C'est vraiment un moment dans lequel on se rassemble tous ensemble, toute la collectivité, les personnes qui sont atteintes, les familles, les bénévoles, pour essayer justement de passer un message d'espoir, d'être tous ensemble et de montrer en fait que lorsqu'on marche ensemble et lorsqu'on peut dépasser, on peut se sentir qu'on est épaulé. Et notre organisation, l'ESP Canada, la Division du Québec et tous les bureaux régionaux sont là justement pour soutenir toutes les personnes. C'est un bel moment de rassemblement qui nous permet aussi de collecter des dons. Toutes les personnes qui souhaitent en fait participer peuvent aller à marchesp.ca et peuvent avoir toute l'information sur nos différentes marches partout dans la province.
Et vous avez un objectif de récolter 4 millions de dollars. Hein, c'est pas rien.
Et effectivement, en fait, au niveau national, on essaie de collecter 4 millions de dollars. En fait, donc, c'est vraiment un petit peu partout dans le pays qu'on essaie de collecter cet ensemble d'argent. En fait, au Québec, c'est 700 000 dollars en fait, qu'on essaie de collecter partout dans la province. Donc, on essaye vraiment de mobiliser tout le monde pour notre cause et pour donner du espoir à toutes les personnes.
Exact.
Parce que la recherche nous permet de donner cet espoir-là dans le quotidien des gens.
Ça, ce sera dimanche, le 26 mai. Ben, on vous souhaite du beau temps le 26 mai. C'est toujours plus agréable quand il fait beau.
Oui.
Hein? Ben, je vous remercie beaucoup, M. Martinez.
Merci à vous.
La sclérose en plaques, comme on disait, on connaît tous quelqu'un qui... doit composer avec la maladie. Et on connaît les défis que ça suppose et on espère que nos élus et tout le monde pourront se rassembler autour de ça. Donc, dimanche, le 26 mai, on va marcher pour la sclérose en plaques. Merci, M. Martinez.
Beaucoup. Merci à vous. Une bonne journée.
De retour après Before the Rain de Lee Oscar. Vous écouterez la chanson au complet. C'est très joli. À la toute fin, il pleut.
C'est tout à fait poétique, François.
C'est reposant à la fin quand il pleut. C'est rare une chanson, enfin une chanson, une pièce instrumentale de 7 minutes comme ça. Là. C'était assez élevé dans le Billboard, si je peux dire, hein, dans les top 10, le top 10 au début des années 80. Ça a beaucoup tourné, ça.
Je n'étais pas né, François. Non, je n'ai pas la référence.
Voilà, c'était pas juste Before the Lane, c'était Before Elizane.
Tout à fait.
Bon, ben on va parler de sujet qui... C'est lourd, le premier sujet,
oui,
mais
je
c'est
sais.
Nécessaire.
Je vous ai fait ça lourd pour commencer, mais je vais m'améliorer, François. On parle donc de dépistage prénatal en Suède. L'ONU dénonce un risque d'eugénisme. Donc, en fait, le Comité des droits de la personne, des personnes handicapées de l'ONU a vérifié la conformité de la Suède en lien avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et dans un rapport qui a été déposé au mois de mars 2024, il constate que la pratique du dépistage prénatal présente des risques au niveau des droits des personnes en situation de handicap parce que, bien sûr, lorsqu'on fait un dépistage prénatal, il y a beaucoup de gens qui décident d'avorter lorsqu'on soupçonne un handicap physique comme la trisomie 21, par exemple.
Mais et semble-t-il que ce dépistage-là est présenté aux parents d'une façon qui tend à préserver ou à soutenir des préjugés négatifs à l'égard des personnes en situation de handicap. C'est pas présenté de la bonne manière.
Ben, c'est présenté comme étant peut-être la solution ou comme étant favorable pour les familles, étant donné les difficultés que pourrait avoir l'enfant avec, je parlais de l'handicap physique, mais on parle évidemment aussi d'handicap psychologique, par exemple, ou de différents problèmes génétiques. Donc, effectivement, de la façon dont on avance ça aux parents, ce serait la solution là, pour éviter de la souffrance, pour éviter des défis dans la vie. Donc, on ne présente pas ça nécessairement de façon neutre.
Oui, mais déjà en 2020, il y avait une étude publiée dans la revue Nature qui avait montré que dans plus d'un cas sur deux, les parents qui attendent un enfant porteur de trisomie choisissent d'avorter.
Oui.
Alors, c'est pas des inventions, là.
C'est quand même, c'est questionnable, évidemment, là, parce qu'on sait que la trisomie 21, bien sûr, apporte différents défis, puis des différences au niveau du fonctionnement de l'enfant, mais bien sûr, on ne peut pas dire non plus que l'enfant en souffre ou que c'est quelque chose là, avec lequel on ne peut pas vivre. Évidemment, le fœtus à ce moment-là est viable. Donc, effectivement, il y a des groupes de soutien, des groupes de défense qui disent que ça commence à ressembler à de l'eugénisme et que éventuellement, là, plus la science va avancer, plus ça risque d'être une réalité à laquelle les personnes en situation de handicap devront se confronter et éventuellement même ça dépassera peut-être le handicap.
Oui, ben éventuellement aussi. Puis dans une sorte de monde utopique, là, peut-être que les gens qui ne sont pas productifs ou trop âgés ou ainsi de suite là, n'auraient pu droit de citer.
J'espère qu'on ne se rendra pas là, mais non. En attendant, François, ça montre quand même à quel point les gens voient l'handicap de façon négative.
Tout à fait.
Ils veulent essayer de le guérir ou de l'éliminer, alors que c'est peut-être pas quelque chose c'est quelque chose qu'on pourrait avoir de façon plus positive,
exact.
Comme étant une différence, mais qui peut apporter à la société. Mais on n'en est pas là en Suède, y compris en France, parce qu'on au niveau là, de la France, on avait aussi été pointé du doigt. Parce que, justement, tout ça, c'est en 2021, un peu pour la même raison, en fait, on trouvait qu'on faisait de la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap dans la façon de présenter des handicaps prénataux ou des malformations et de favoriser l'avortement ou de le présenter comme étant l'option la plus intelligente et parfois même la seule option.
Exact. Et évidemment, en parlant de Paris ou de France, ben ça va être notre quart d'heure français. On a l'État français lance un guide d'accessibilité pour, évidemment, les Jeux. Les Jeux de Paris, c'est énorme parce que Il n'y a pas une semaine sans qu'on en parle.
Voilà, je ne pouvais pas vous en parler, François, et vous connaissez à quel point je commence à m'attacher à mes yeux de Paris.
Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire en octobre, là?
Je ne sais pas de quoi je veux parier, François. Il va falloir que je fasse ma thérapie. Mais en attendant, voilà, on a sorti un guide d'accessibilité pour les yeux, pour les personnes en situation de handicap, parce que, bien sûr, il y aura énormément de spectateurs qui seront en situation de handicap. Donc, le guide va présenter avec 14 cartes animées, différentes façons de se déplacer, entre autres les modalités qui sont présentées par différentes compagnies pour favoriser l'accessibilité.
On attend pas loin de 3 millions de personnes en situation de handicap sur les sites de compétition, à la fois pour les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août et pour les Paralympiques du 28 août au 8 septembre. On 3 millions de visiteurs et avec les Jeux paralympiques, là, des milliers de compétitions, de compétiteurs, compétitrices. Entre autres, on attend 350 000 personnes qui se déplacent en fauteuil. Alors, ces cartes sont sous-titrées, décrites en audio, traduites en langue des signes. Il y a un travail de couleur, de contraste. Il y a également une version en langue facile à comprendre. Et dans ce sens-là, ces cartes-là, c'est vraiment... si je peux dire, c'est vraiment du bonbon, hein?
Oui, en fait, ça va aider tous les voyageurs qui vont avoir accès à de l'information réunie au même endroit. Effectivement, ça semble très bien fait. Donc, chapeau pour ça, malgré que l'accessibilité aux Jeux de Paris, on en a parlé, je crois pas... totalement adéquat, mais au moins, on donne des outils.
Bien, sur les cartes, on parle de ce qui est accessible, ainsi de suite. On espère qu'une fois rendu au quai de la gare ou de la station de métro, ça va bien se passer. Moi, ça m'a fait sourire parce que la version facile à comprendre va également éventuellement être... il va y en avoir une en anglais. Bon, alors...
oui, mais bon.
On fera pas de blague, on pourrait en faire. Indignation après la sortie. Alors ça, c'est typique de ce qui se passe en France, c'est terrible à dire. Avec les Jeux, les Paralympiques, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis, mais là, la ministre de l'Éducation s'est vraiment mis les pieds dans les plats.
Oui, Madame Nicole Belloubet, qui, lors de son passage à une émission, l'émission Les Quatre Vérités, diffusée sur France 2 le 22 avril dernier, a fait des rapprochements entre le handicap et les élèves perturbateurs, donc en disant finalement que les personnes en situation de handicap pouvaient perturber les classes. Et quand on parle, François, entre autres, on a parlé au mois d'août à l'entrée des classes, qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, de jeunes étudiants, étudiantes, élèves, je devrais dire, en situation de handicap, qui n'ont pas accès à la classe, qui ne sont pas scolarisés, malgré évidemment que c'est un droit fondamental, parce qu'on n'arrive pas à répondre à leurs besoins. Ce type de commentariat de la part du ministre, on s'en passerait.
Ben oui, puis y a comme un tiraillement en France en ce moment. Y a une intégration dans le milieu scolaire des élèves en situation de handicap, qui malheureusement n'est pas accompagné d'un nombre suffisant
de ressources.
Alors là, ça crée des problèmes. Il y a eu des manifestations contre l'école inclusive. Il y a eu des propos comme ceux de la ministre de l'Éducation. Il y a des cris d'alarme de la part des parents parce qu'ils ont des enfants à la maison qui ne sont pas scolarisés. C'est un beau fouillis.
En fait, on semble... penser plus au niveau du portefeuille, donc combien ça va coûter de prendre l'option la moins chère plutôt que de penser à l'élève. Du moins, c'est ce que j'en comprends, là, François. Donc, effectivement, ça va être à suivre, mais la ministre ne vient pas de céder dans ce dossier-là.
Voilà. Il y a une entrepreneur tech, Pauline Mangin, qui lance « All kids are cool kids ». Évidemment, c'est en France, alors il faut le dire en français, qui est un magazine, un web magazine qui s'adresse aux familles d'enfants en situation d'handicap.
Oui, effectivement. Donc, Madame Mangin, qui elle-même est la maman d'un enfant qui a un handicap et qui trouvait que pour trouver l'information, il fallait chercher beaucoup, que l'information n'était pas répertoriée au même endroit, des fois pas claire. Donc, ce magazine-là va répertorier l'information pour aider les parents d'enfants en situation d'handicap à s'y retrouver, entre autres pour savoir comment on fait pour s'inscrire à l'école ou à la garderie, par exemple. Donc, on va pouvoir retrouver toutes ces ressources-là. Effectivement, Mme Mangin qui parle...
À la même adresse.
oui, qui parle de sa propre expérience et qui pense qu'elle peut aider les personnes en situation de handicap à mieux se retrouver et surtout les parents des enfants.
Ben c'est super. On en reparle après la pause.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Oui, Élisane, pour revenir à notre sujet de la, juste avant la pause, donc le site qui a été lancé s'appelle All Kids Are Cool Kids, juste pour que tout le monde puisse bien le noter. On va y retrouver donc toutes les références. Évidemment, ça va être un guide de ressources pour les familles ayant des enfants en situation d'handicap pour la France.
En France, oui.
Ben, peut-être
ça pourrait donner quelques idées à certaines personnes ici au Québec.
Tout à fait, ce serait peut-être l'idée qui naît.
Je lance l'idée, on s'appelle.
Ben voilà. Moi, j'ai trouvé ça très bien de lire qu'il s'agissait du 20e, pas du 20e, mais
du deuxième festival international du film sur le handicap, François, qui aura lieu dans le 20e arrondissement.
Ah, ben voilà. Voilà le 20e qui me manquait. Merci, Élisane, de me sauver.
C'est toujours un plaisir. Donc, effectivement, il y aura la soirée d'ouverture du Festival international du film sur le handicap qui aura lieu mardi le 28 mai.
D'accord.
On y proposera, en fait, évidemment, des films en lien avec le handicap, bien sûr. On aura aussi des projections pour les élèves, donc des projections scolaires. Et on aura également des courts-métrages et des personnes en situation de handicap qui feront une chorégraphie.
Non, bravo. Et le lancement, le festival, en fait, est une tournée, si je puis dire. Ça a été lancé à Lyon en février. Et le Festival international du film sur les handicaps entame sa tournée de villes françaises et à l'étranger, disent-ils. Alors, je suis curieux de savoir s'ils vont, ils vont faire un tour chez nous. Ça arrive donc à Paris du 29.
Ce n'est toujours pas annoncé, mais on suivra ça, François.
Peut-être, peut-être. Et je trouve ça bien qu'il y ait des... il prévoit des visionnements dans les écoles parce que l'inclusion, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Alors, c'est déjà prévu que les écoles à Paris auront leurs portes ouvertes pour visionner ces films. Une autre perspective sur le handicap, cette fois-ci en Belgique.
Oui, on va en Belgique où les personnes atteintes d'un handicap psychologique vont être incluses dans la démocratie locale. Le Parlement de Bruxelles a adopté vendredi dernier donc la proposition d'ordonnance visant à permettre d'inclure les personnes atteintes d'un handicap dans l'exercice d'un mandat communion. Ce que ça veut dire, en fait, là, c'est qu'on va permettre d'adapter les documents pour que ces personnes-là soient en mesure de bien lire, de bien comprendre et de poser leur opinion.
Et de voter, et qu'il y ait un accompagnement adéquat dans l'isoloir, et de voir donc que les personnes atteintes d'un handicap intellectuel puissent exercer leurs droits, hein, leurs droits démocratiques. Ben, c'est une bonne nouvelle, mais il semble-t-il qu'à Bruxelles, il y a encore des lacunes.
Oui, mais en fait, on dénonce quand même là, qu'il y a actuellement 7263 adultes. Mais on ne sait pas qui ont des besoins, donc des besoins particuliers importants, mais on ne sait pas à quel point on a des demandes de services, donc on ne fait pas la comptabilisation des demandes de services par ces personnes-là. Donc, à ce moment-là, c'est difficile, évidemment, de s'ajuster à la demande quand on ne connaît pas les chiffres exacts de la demande.
Oui, parce que tout ça, ça fait surface au moment de l'annonce d'un guichet unique pour les personnes en situation de handicap à Bruxelles. Alors, c'est sûr que le concept du guichet unique, c'est souvent très porteur. Ça simplifie la vie de tout le monde. Ce guichet rassemble toute l'information utile pour les personnes en situation de handicap, les Bruxellois, Bruxelloises, quel que soit l'organisme ou l'association compétente. Donc, c'est vraiment un grand registre sur toutes les thématiques de vie, que ce soit l'emploi, que ce soit le logement, ainsi de suite. Alors, il propose des traductions ou des interprétations en facile à lire et à comprendre et en langue des signes. Mais voilà, en même temps, il n'y a pas une bonne on ne répertorie pas tout à fait les besoins et les services.
Voilà, donc on a comme sauté une étape, même si on aime l'idée que ce guichet unique-là va être très utile. Il aurait fallu faire un questionnement sur le marché, à savoir de quoi on avait besoin et de combien de personnes on allait toucher avec tout ça.
Exact.
Effectivement, ça n'a pas été fait.
Ben voilà. Ben on Juste pour terminer et pour avant de traverser l'Atlantique et revenir de ce côté-ci, Intel, qui est le partenaire des Jeux olympiques depuis déjà quelques cycles olympiques, va continuer de s'impliquer aux Jeux olympiques de Paris et aux Paralympiques cet été. On nous dit que ça aura un impact favorable peut-être et donnera des suites sur des adaptations pour les personnes en situation d'handicap. Voilà, c'est dit.
Et par la suite, on reviendra, donc, François, au niveau local. On a quelques bonnes nouvelles ici.
Oui, ben on peut peut-être y aller tout de suite pour parler de ce qui se passe, une accessibilité accrue aux vaccins contre le zona.
Allons-y. Donc, on a Christian Dubé et Sonia Bélanger, qui est ministre déléguée à la Santé, et Christian Dubé, qui a... Voilà, ministre délégué aux aînés, responsable des aînés et le ministre de la Santé, dis-je, qui ont annoncé donc qu'à partir du 1er mai, le vaccin contre le zona sera disponible gratuitement
pour
les gens à partir de 75 ans, alors que avant c'était à partir de 80, donc on va étendre.
Un peu plus, mais on espère que la limite d'âge continue à baisser, parce que le zona, c'est quand on en est atteinte, là, c'est pas de la tartine.
Il paraît que c'est pas drôle, et effectivement, ça coûte quand même très cher au niveau des complications, donc les gens vont évidemment devoir consulter à l'hôpital, et on espère qu'avec le vaccin, en rendant le vaccin gratuit au plus de gens possible, on évite donc des tours vers les hôpitaux, vers les cliniques, et qu'on puisse réduire le coût associé aux complications du zona, et bien sûr, évidemment, avec le manque de médecins et de personnel, on espère que ça va aider.
Tout à fait. Toujours dans l'optique du sort réservé aux personnes âgées, aux aînés, à Lévis, il y a une résidence là, qui s'appelle Les Sages qui ferme ses portes parce qu'on a des graves problèmes de gérance.
Oui, donc c'est une résidence qui, avant, s'appelait Mon Domaine, Via Mon Domaine. Et effectivement, on a différentes difficultés. Donc, les portes fermeront à partir du 20 mai. Donc, 24 pensionnaires devront être emménagés ailleurs, en fait, parce qu'effectivement, on a des problèmes au niveau de la gestion. La propriété avait fait la manchette à plusieurs reprises, entre autres, parce que il y avait du traitement abusif de travailleurs étrangers. Évidemment, les travailleurs étrangers ont des droits, et les droits avaient été bafoués par les propriétaires. On parlait également de maltraitance de certains pensionnaires, et malgré un suivi serré, il semble que ça ne se soit pas arrangé.
Ben, on a simplement changé le nom, voilà, mais ça semble toujours être les mêmes propriétaires, et c'est problématique. Alors, malheureusement, cette résidence va fermer. On sait que c'est toujours... On en avait parlé la semaine dernière, hein, des problèmes. Il y avait une problématique à Longueuil qui avait été identifiée, comme quoi ben, les RPA ne sont pas conformes, mais comme on manque tellement de place, ben on
ferme les yeux
un
peu.
On laisse passer.
On tourne les coins
ronds. Voilà, exactement. Alors là, c'est peut-être d'avoir plus de ressources serait la solution. Voilà. Ben, on fait une... Oh, attends, avant d'aller pour la pause, parce qu'on a une surprise pour vous, Élisane. La Ville de Montréal affirme que, ça, c'est une bonne nouvelle, que les déplacements en transport en commun augmentent. Il n'y a plus de gens qui bougent.
Oui, effectivement. Donc, on avait mis sur pied un nouveau programme pour les personnes de 65 ans et plus, un programme de gratuité. Et effectivement, le programme a bien marché, donc... Ça permet aux personnes de plus de 65 ans de mieux bouger. On parle de 47% des personnes qui avaient droit à ce programme de gratuité qui se sont inscrits.
Se sont prévalus.
Selon les chiffres qu'on avait à la fin 2023. Donc, c'est quand même une très bonne réussite, et ça permet évidemment une meilleure mobilité de nos aînés.
Exact. 15 à 20 d'augmentation chez les pour l'usage en déplacement, en transport en commun, chez les personnes âgées de 65 ans et plus au cours des 6 mois qui ont suivi la gratuité. Ça datait de juillet dernier. Le programme qui est entré en vigueur, donc, au milieu de l'année dernière, offre aux résidents de 65 ans et plus un tarif gratuit pour les déplacements en transport en commun dans la Ville de Montréal et sa banlieue. Évidemment, il faut s'équiper de la bonne carte pour y avoir droit. Ben bravo. Alors, on va parler d'athlètes après la pause. Ah, château en Espagne. Voilà, Michel Pagliaro. Alors, si vous avez compris vraiment toutes les paroles, vous nous envoyez un courriel. On est curieux de savoir ce que vous avez pu... Mais c'est pas grave, les paroles, parce que la musique est trop bonne.
Tout à fait.
Voilà. Juste pour terminer, pour ce qui est des aînés sur la rive sud de Montréal, une bonne nouvelle.
Oui, une bonne nouvelle. Donc, des immeubles de 100 logements abordables qui seront construits à Longueuil, à Mission Unitanée et à Ville de Longueuil a annoncé donc que les logements abordables allaient commencer... on allait commencer la construction en 2026.
Oh, d'accord. Ben 2026, c'est loin, mais bon.
Oui, mais bon.
On déjà, les prend pareil.
Ça a été accepté. OK, c'est un bon début. J'aurais voulu faire mieux, François, mais bon.
C'est bon pour aujourd'hui.
C'est un immeuble de 6 étages avec des investissements gouvernementaux de 23,5 millions qui vont être gérés grâce à l'Office de l'habitation de Longueuil. On a aussi un fonds de prévoyance qui sera là et on parle donc de loyer qui sera fixé autour de 600$ pour un studio et 900$ pour un logement de deux chambres. Donc, c'est quand même des prix adéquats.
Dans le contexte actuel, tout à fait.
Et on veut offrir ça à des personnes âgées autonomes. On aura aussi un investissement de 235 millions de dollars provenant des gouvernements du Québec et du Canada. On va répliquer, en fait, ce type de logement-là dans 10 villes du Québec.
Oui, tout à fait. Et vous savez, Elisane, on avait parlé de ce projet-là ou de ce concept de reproduire ces logements un peu partout au Québec. On en avait parlé déjà il y avait quelques semaines. Mais on savait pas encore dans quelle ville tout cela
voilà, donc il y a la première est à Longueuil.
Longueuil, bien ça, c'est une bonne nouvelle. Bravo.
Effectivement, ça va permettre donc des coûts inférieurs au niveau des constructions de logements et évidemment là, de dégager des pièces pour les personnes aînées qui sont à faible revenu parce qu'ils pourront effectivement avoir accès donc à la subvention pour payer le logement pour que le logement ne dépasse pas donc 25%.
Oui. Exact. Ben ça, c'est très bien. Je ne sais pas où est la liste d'attente, mais j'ai l'impression que ça se remplit vite. On avait la semaine dernière, en fait, dimanche, hier, c'était la clôture d'un grand événement.
Oui, événement sportif Altergo. Donc, 6 000 athlètes venus d'un peu partout dans le monde. C'était la 41e édition du défi. Ça avait lieu à Montréal et il y avait 23 pays et 9 disciplines dans lesquelles les jeunes... Et les moins jeunes s'affrontaient. Donc, on parle évidemment Altergo, des personnes avec des situations d'handicap diverses, que ce soit des handicaps physiques ou des handicaps au niveau intellectuel ou de neurodiversité. Donc, effectivement, là, j'ai vu des photos, des vidéos, ça avait l'air bien amusant.
Ah oui, tout à fait.
Et il y a quand même des athlètes de très haut niveau, y compris les athlètes paralympiques
Qui
se retrouvent à Paris, qui ont compétitionné. Donc, il y avait quand même un très haut niveau. Et évidemment, il y avait aussi des gens qui ne sont pas des paralympiens qui pouvaient y aller beaucoup plus pour le plaisir et le fait de bouger et de se rencontrer. Donc, vraiment, tout le monde a été servi.
Tout à fait. C'est ça qui est vraiment chouette avec le défi sportif Altergo. À chaque année, il y a à la fois tout le milieu scolaire. Alors, ça, c'est des centaines, des milliers d'enfants qui sont là pour s'amuser puis compétitionner, mais dans un esprit de franche camaraderie. Puis en même temps, il y a tout un volet compétitif qui est plus sérieux, là.
Oui.
Et les deux se côtoient. Alors, c'est vraiment une fête du sport adapté. Et dans cette optique-là, la ministre du Sport, Isabelle Charest, a annoncé un financement de 700 000 $ visant à aider à permettre aux organismes d'acheter davantage d'équipements pour pratiquer des sports adaptés. C'est sûr que 700 000, c'est bienvenu. Comme le faisait remarquer Jean-Marie Lapointe, un des porte-parole, ça sera pas long qu'on va trouver des façons de bien le dépenser, là, parce que ça va juste combler une partie du besoin, mais c'est certainement...
C'est déjà mieux que rien.
Voilà, c'est un pas dans la bonne direction.
L'équipement adapté coûte quand même très cher, donc c'est un bon début.
Oui, voilà, ça va favoriser la pratique du sport adapté un peu partout au Québec. Il y avait, comme à chaque année, des compétitions. Il y en avait une qui a retenu mon attention. Je pense que c'était au Collège Édouard-Montpetit sur la Rive-Sud. Il y avait une compétition très relevée de Power Chair Soccer. Ça, c'est du... si vous pouvez aller voir ça sur Internet, parce que c'est un sport qui, je pense, va bientôt s'inscrire à l'intérieur des Paralympiques.
Oui,
le Power Chair Soccer, ça se joue, à l'intérieur d'une grande salle avec un... ce sont des gens à mobilité réduite qui ont des fauteuils électriques.
Oui.
Et ça y va par là.
Oui, ça joue quand même, hein?
Oh, oui, c'est assez spécial. Leur ballon, c'est assez gros, là. Ça a l'air d'un ballon de plage, mais ils se déplacent avec une vitesse et une dextérité étonnantes. J'avais eu le plaisir, il y a quelques années, de rencontrer un des athlètes de Power Chair Soccer qui habite à Lévis. Malheureusement, je n'ai pas son nom à l'esprit, là, mais c'est du sérieux. Alors voilà, on va suivre ça dans notre dossier paralympique mardi prochain, le 7 mai, d'un bout à l'autre de la province en virtuel. On vous invite à vous joindre à la Journée nationale de l'audition du Québec. En effet, à partir de mardi le 7, il y aura des activités, mais samedi le 11 en particulier, ce sera l'heure d'une grande rencontre à Montréal. On invite tout le monde à aller au Centre des sciences de Montréal pour une journée d'activités ludiques. Pour toute la famille, plusieurs activités vous attendent, dont une simulation de perte auditive, également le lancement d'une trousse pédagogique et de sensibilisation à la santé auditive, car ce sera la semaine de l'audition au Québec. Voilà. Mais pour les amis des bêtes et les bêtes qui sont nos amis, hein?
Oui.
Il va y avoir une grande marche au courant du mois.
Je me reconnais dans cette nouvelle, François. Ouais. Effectivement, Inca qui vient d'annoncer qu'il y aurait la 5e édition de la course à pattes annuelle pour les chiens guides d'Inca. Pour ceux qui ne savaient pas, Inca propose maintenant des chiens guides aux personnes donc qui ont des problèmes visuels, étant donné que la demande est très, très, très élevée. Donc, pour financer leur programme de chiens guides, il y aura une course virtuelle de 5 km. Donc, les gens peuvent s'inscrire et faire leurs 5 km d'ici le 31 mai. Et donc, on peut faire les 5 km entre nous en famille et s'inscrire et le faire quand le bon nous semble, à l'endroit où il nous semble bon de faire. Et également, on a donc une équipe lumineuse d'Inca Québec. Si vous vouliez vous joindre à l'équipe d'Inca, vous êtes les bienvenus. Donc, ils vont aller courir le 24 mai de 17h à 19h au Parc Maisonneuve de Montréal. Donc, vous avez toujours l'option de courir avec l'équipe d'Inca si vous vouliez être en groupe. L'inscription coûte $45 et sera au profit donc d'Inca. Donc vous pouvez soit vous inscrire avec équipe, soit le faire de votre côté. En tous les cas, on vous invite à participer pour la bonne cause, pour nos amis d'Inca qui font un très bon travail.
Oui, tout à fait. On peut également, on dirait que le mois de mai, c'est le mois de beaucoup de choses. On en a parlé tout à l'heure avec M. Martinez. C'est le mois de sensibilisation pour la sclérose en plaques. Il y a la semaine de l'audition. Inca organise la course à pattes.
C'est parce qu'il y a plus de neige, François, ça me rend
Ben voilà. Mais c'est également le mois de la santé visuelle au Québec et nous aurons le plaisir d'avoir en notre compagnie au cours de la prochaine semaine des gens de l'Association de l'Ordre québécois des optométristes. On va parler de santé visuelle tout à fait. Il y a une campagne pour promouvoir la mobilité urbaine inclusive qui vient d'être lancée par la RAM, le Rassemblement des aveugles et amblyopes de Montréal. Et il va y avoir donc une campagne de sensibilisation avec un sondage en ligne. Il y a également un concours littéraire pour les personnes francophones ayant une déficience visuelle. Le Centre de transcription et d'édition en braille, CTBE en France, organise un concours littéraire international pour les personnes ayant une limitation visuelle. Il y a une consultation du RAC, ça c'est le Rassemblement des aveugles amblyopes du Québec, sur le braille abrégé. Le RAC lance une vaste consultation sur le braille abrégé et organise une rencontre en ligne sur Zoom. Ça, c'est le 11 juin prochain. Ça va être intéressant parce que l'avenir du braille est une...
Oui, il paraît qu'il y a voilà. Quand même un bon débat là, sur le braille.
Oui,
je suis pas en situation handicap visuel, donc ça me touche pas directement, mais il paraît effectivement que
ça
il y a
bouge.
Il y a peu de gens qui apprennent maintenant le
oui,
braille.
Oui, tout à fait. C'est plutôt... mais c'est d'une autre façon, ça demeure essentiel pour plusieurs. Alors, je pense que tout était... On a eu le plaisir d'avoir Mme Lachance ici de l'INLB il y a quelques semaines qui nous expliquait tout ce que ça pouvait faire, entre autres la communication entre un enfant qui a un handicap visuel et ses parents voyants, entre autres, pour permettre de faire de la lecture en famille. La perception des Canadiens ont de leur santé oculaire, là aussi, la Société canadienne d'ophtalmologie a publié une étude révélant la perception des Canadiens à l'égard de leur santé visuelle. Donc, tout ça va se retrouver à l'intérieur du dernier bulletin du RAM. On vous souhaite de pouvoir le lire et d'y accéder. Dans le domaine de la culture, on aura au mois de mai quelques événements qui valent la peine d'être soulignés. Si vous avez manqué ce qui s'est passé au cours des derniers mois, ben ne vous en faites pas, il va y avoir d'autres informations. Mademoiselle Agnès est présentée au Rideau Vert avec Théâtre Description. Ça, c'est vendredi le 24 mai. Alors, c'est sûr que ça prend un petit peu d'avance parce qu'il faut s'inscrire et avoir tout ce qu'il faut. Alors, le Rideau Vert, le théâtre de la rue Saint-Denis, on le sait, tout près du boulevard Saint-Joseph, le vendredi 24 mai, Mademoiselle Agnès, présentée par le Rideau Vert avec Théâtre ou Description, dis-je, à 19h30. Il faudrait pouvoir se passer des autres, ils sont si hypocrites. Ça, c'est le texte d'intro oui. du propos. C'est le dur constat d'Agnès, écrivaine qui souhaiterait se faire ermite pour fuir les mondanités de la caste qui est la sienne. L'autrice allemande Rebecca Kriegeldorf se plaint à triturer les classiques après s'être emparée des trois sœurs de Tchekhov pour écrire sa pièce Villa Dolorosa. Elle embauche maintenant Molière, oh là là, pour nous offrir une sorte de misanthrope des temps présents. Ben oui, c'est vrai. Hein? Dans le rôle-titre, la grande Sylvie Drapeau peint ce portrait au vitriol d'un milieu artistique dans lequel tente de surnager un esprit peut-être trop critique. C'est avec un vif plaisir pour le Rideau Vert que de présenter cette production du théâtre Point d'Orgue, mise en scène par Louis-Carl Tremblay et saluée par le public et la critique lors de sa création au Théâtre Prospero l'automne 22. Alors, le Théâtre du Rideau Vert offre une théâtrodescription aux personnes en situation d'handicap et ce sera important de vous inscrire et de communiquer avant de vous présenter hein, pour pouvoir avoir droit à tous ces avantages. Voilà ce qui est au Rideau Vert. Le Centre Siegel présente POTUS. POTUS, ça veut dire President of the United States, n'est-ce pas? Oui.
Ah, oh, je ne sais pas.
Je peux vous le dire. Et voilà, ça, c'est une pièce au Centre Siegel à 19h le 26 mai. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Lisanne.
Merci beaucoup, François.
Et encore une fois, merci à Mathieu Tessier à la technique et son invité Samuel aujourd'hui, hein, qui va se joindre à l'équipe prochainement. Bravo. Claire Guérin à la recherche. François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.